RMC Motors avec Motorsport TV, Jean-Luc Roy.
Et bonjour à tous, bienvenue dans Motors, bienvenue sur RMC. On va vous parler de sport mécanique, ça vous le savez déjà, puisqu'on a le plaisir de se retrouver tous les dimanches entre 13h et 14h et on a un bon programme aujourd'hui. Il y a de la Formule 1, il y a du championnat du monde des rallyes avec peut-être un titre pour un équipage français. Et puis il y a de la moto, autant dire qu'on va se régaler. On va commencer par la F1 avec Adrien Tambay. Salut Adrien.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Alors on a eu une belle séance de qualif, hein, c'est le moins que l'on puisse dire, avec une pole. Je vais pas dire que l'on attendait, je vais pas dire que l'on souhaitait, parce qu'on peut toujours se méprendre sur mes propos, mais enfin, pour maintenir le suspense et ne pas faire en sorte que Lewis Hamilton soit titré, il fallait que Vettel la décroche, celle-là.
Oui, il a réussi à faire durer un peu plus le suspense, Sébastien Vettel, et effectivement quand on voit la physionomie de cette qualification, c'était pas chose facile parce que c'est Max Verstappen qui la dominait, cette qualif. Il arrivait à se détacher des autres, tous très serrés les uns avec les autres, entre les Red Bull, les Ferrari et les Mercedes, dans un mouchoir de poche, mais le seul qui arrivait à mettre 3 dixièmes au reste, c'était Max Verstappen, jusqu'au dernier run de Q3 de Sébastien Vettel, dans lequel il a fait un tour d'anthologie. Il a réussi à dépasser le Hollandais pour 9 centièmes, je crois.
Allez, ce sera dans quelques heures maintenant, juste avant 20h, mais c'est le tour de chauffe de Motors.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Et ben voilà, c'est même plus que le tour de chauffe, puisqu'on est déjà chaud bouillant, donc c'est moins qu'on puisse dire, avec cette grille de départ sous haute tension, évidemment. Tu le disais, Adrien, il y a un instant. Alors, on rappelle les caractéristiques de ce tracé du Mexique. On est revenu, en fait, au Mexique, hein, après une longue interruption. Et c'est un tracé qui est à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc, il pose des problèmes mécaniques, déjà, de refroidissement, etc., et de puissance, mais aussi aux pilotes.
Oui, beaucoup de problèmes, d'ailleurs, mécaniques depuis le début du week-end, et notamment pour les Renault, pour les Toro Rosso, celle de Pierre Gasly, et même celle de son coéquipier Brendan Hartley. On est même en train en ce moment de s'interroger sur Ricciardo et un éventuel changement de moteur. Un circuit qui est plaisant pour les pilotes et qui procure souvent des belles courses. Il y a deux belles zones de DRS et aussi très spectaculaire, pardon, pour les Mexicains, puisqu'on arrive à un moment donné dans un stadium à basse vitesse, et c'est très rare comme ça en Formule 1 de voir plus de un ou deux virages. En fait, on voit presque quatre virages pour les spectateurs, et c'est très sympa. Il y a une ambiance particulière.
Et une ambiance de folie, d'autant qu'il y a, et on l'a dit, un pilote mexicain, on l'entendra tout à l'heure, un Sergio Pérez, Chico Pérez, comme on le surnomme là-bas, qui est l'équipier d'Esteban Ocon. Esteban, l'a devancé. C'est la vie. On va commencer d'abord par le haut de la grille. On a beaucoup de sons à vous faire écouter, donc on enquille directement avec Sébastien Vettel. Donc c'est la 50e pole de sa carrière, et donc ça n'est que la 4e de la saison, c'est ça qui est étonnant. La dernière, c'était à Singapour. Avant, il y en avait eu d'autres, mais il fallait remonter à la Russie également. Autant dire que il fallait absolument qu'il la décroche, celle-là, s'il voulait garder des chances de l'emporter. On écoute Sébastien Vettel au micro de Louis Amar.
Je suis évidemment très heureux, j'ai réussi le tour parfait, et c'est très difficile ici parce que la piste est glissante. Donc c'est facile de faire une erreur qui gâche tout, mais j'ai trouvé la clé à un moment de la qualification. C'est un peu comme si quelqu'un avait allumé la lumière, et après je n'ai fait qu'améliorer mes performances. Donc j'ai réussi à attaquer tout en restant très propre sur une qualification comme ça, où tout le monde était très proche et en mesure de faire la pole. C'est super de réussir à repousser tous les autres.
Oui, puis ça n'a pas été facile. Effectivement, on rappelle les positions au championnat, Adrien, avec 331 points pour Lewis Hamilton à l'amorce de ses trois derniers Grands Prix, celui-ci inclus. Derrière, il y a Sébastien Vettel, 265, et puis plus loin, Valtteri Bottas, on va en parler, 244, Ricciardo et autres. Mais on va se centrer, si tu veux bien, sur ce duel Vettel-Hamilton. Alors, petite déception justement pour Hamilton, qui ne figurera même pas sur la première ligne de la grille de départ.
Mais une déception, oui et non, mais en tout cas, la Mercedes est un peu moins dominante qu'elle a été lors des derniers Grands Prix, et surtout c'est un circuit peut-être où les différences sont un peu atténuées entre les voitures, entre les différentes voitures, et on les a vues très proches les uns des autres, la Ferrari, la Mercedes et la Red Bull. On parlait tout à l'heure de l'altitude. Oui. Est-ce que l'altitude élevée, c'est une idée qui vient de me traverser l'esprit,
ne coûte pas plus cher,
à la Mercedes, qui d'habitude a un avantage du côté moteur.
Absolument.
Mais peut-être que ici, je pense pas honnêtement, parce
c'est
que
possible, hein.
Quand on voit les vitesses de pointe, notamment d'Esteban Ocon et de Sergio Pérez dans le premier secteur, les Force India équipées d'un moteur Mercedes, elles respirent bien quand même.
Oui, plus de 340 km/h. Oui, c'est pas mal. mal du tout. Alors, on a écouté Sébastien Vettel, l'auteur de cette 50e pole. C'est un contron, hein. C'est moins bien qu'Hamilton, mais c'est quand même pas mal. On va écouter justement son rival. On va se centrer justement sur la réaction de Lewis Hamilton. La question posée par Louis Hamar, comment expliquer que vous ne soyez que 3e sur la grille de départ?
C'est la piste, c'est l'altitude, ce sont les autres qui étaient plus rapides. Et puis ce circuit a des similitudes avec celui de Singapour dans certains virages. J'avais déjà été en difficulté là-bas, donc c'est un mélange de tout ça. Je m'attends à une course compliquée parce que je pense que les Ferrari et les Red Bull seront très rapides. Mais en même temps, troisième, ce n'est pas si mal. La ligne droite avant le premier virage est très longue, donc je vais essayer d'en profiter pour passer devant.
Move into position, that's what I'm going to do.
Alors, je vous propose tout de suite d'écouter la deuxième question que Louis a posée à Lewis Hamilton, justement, en partant de cette deuxième ligne avec cette troisième position. Est-ce qu'il va se contenter de gérer? On sait que si Vettel remporte le Grand Prix, eh bien, il faudrait qu'Hamilton soit au moins cinquième, ou mieux, bien sûr, et dans ce cas-là, il est titré. Alors, la question, c'est ça, c'est est-ce que ça change quelque chose de partir de la deuxième ligne? Écoutez ce que Lewis a répondu à Louis Hamar.
Definitely doesn't change my position. I want to win.
Ça ne change absolument rien pour moi. Je veux gagner et être champion avec la manière. Je ne veux pas terminer cinquième ici et gagner le titre comme ça, ça ne m'intéresse pas. Mon modèle, c'est le week-end dernier. Ça a été parfait de bout en bout aux États-Unis et je veux continuer de montrer que je suis capable de ce genre de performance. Donc le but, le rêve, c'est d'être en haut du podium dimanche avec en plus le championnat en poche. Je serais très fier si j'y arrivais. Je ne pourrais pas mieux faire.
That's really as high as it gets.
Et on le comprend, parce que Adrien, il y a toujours le fond et la forme, et s'il y a la manière, s'il y a évidemment quelle plus belle manière que de fêter un quatrième titre de champion du monde, puisqu'on le rappelle, ça ferait de lui l'égal d'Alain Prost et de Sébastien Vettel, puisque c'est le dernier à avoir réussi cet exploit, 4 titres de rang sur le podium, au moins, on va dire.
Ouais, je pense que c'est très important pour Lewis Hamilton de terminer avec du panache. Maintenant, c'est plus pour la forme qu'il dit ça. Je pense qu'il sera aussi très heureux s'il remporte le titre dès ce soir. Maintenant, c'est sûr que s'il peut aller l'emporter, c'est une superstar et avec le panache, ça sera encore mieux.
Et puis, il va essayer d'éviter ce qui va se passer dans le premier virage. On le disait, il y a plus de 800 mètres d'accélération avec des freins froids. L'altitude, le peu d'appui, ça va être vraiment là, on le survend pas. Hein. Ce premier freinage, il va être délicat.
C'est éventuellement ça le problème, plus que de n'être que troisième. Quand on n'est pas sur la première ligne, on se met quelque part un peu en danger parce qu'on n'est plus, on a des gens devant, on a des gens derrière. Ça, c'est un peu l'accordéon dans le premier virage et on a vu que l'année dernière, ce virage,
il avait créé pas mal de. Lui-même avait tiré tout droit, si tu te rappelles.
Hein,
Donc il était en pole et sa lutte avec Rosberg était. On avait terminé avec 8 secondes d'écart entre les deux hommes et effectivement ça avait commencé dès le premier virage. Alors je vous propose d'écouter maintenant le troisième homme parce qu'il en faut au moins un et il y en aura plusieurs, mais il s'appelle Verstappen évidemment, Max Lamennas, qui a tout donné en qualif. On pensait bien que peut-être, tu l'évoquais tout à l'heure Adrien au début de cette émission, il avait sa première pole au bout du capot de sa Red Bull Renault. Ça n'a pas été le cas, mais écoutez ce qu'il a répondu à Louis Hamar.
Of course, it's always better to be first and second.
Évidemment, c'est toujours mieux d'être premier que deuxième. Je ne vous apprends rien. Mais au final, c'est la course qui compte et il y aura des opportunités. La voiture était bien aujourd'hui, surtout en Q2 où on avait un super rythme. Mais en Q3, je ne sais pas pourquoi j'ai eu plus de mal à faire fonctionner les pneus. Ça rend tout plus compliqué sur cette piste qui est déjà assez glissante. Pour la course, je ferai comme d'habitude, essayer d'obtenir le meilleur résultat possible et d'emmagasiner de l'expérience pour la saison prochaine où j'espère qu'on sera à ce niveau-là tout le temps.
Alors, on garde un œil, on vous le dit aussi, sur ce qui se passe du côté du Pays de Galles, parce qu'évidemment, c'est en train de se jouer là-bas et c'est la victoire qui va se jouer. A priori, elle était acquise à Elfyn Evans. On va en parler avec Camille Gelpi, l'envoyé spécial de RMC, tout à l'heure. Donc, je ne vous déflore pas le sujet, mais il se passe des choses du côté du Pays de Galles. On en parlera dans la troisième partie de Motors. On continue avec la Formule 1, avec toi, Adrien. Alors, évidemment, j'ai tendance à dire, faut des vainqueurs déjà en qualif et faut des vaincus. L'un d'entre eux, c'est Ricciardo, parce que autant Verstappen a été brillant, autant Verstappen a détenu la pole un moment, il s'est fait arracher au dernier moment par Vettel, mais alors Daniel Ricciardo, il était où là? Seulement 7e temps.
Voilà, il y a quelque chose qui va pas, c'est sûr, on recherche et on ne sait pas ce qu'il s'est passé du côté de Daniel Ricciardo. Il était très frustré après, à la fin de cette qualif, parce que son coéquipier arrivait, il a dominé tout simplement cette qualif jusqu'au dernier run de Vettel. Par contre, lui, Ricardo, ne fait que 7e. Et effectivement, maintenant, on se questionne sur la bonne santé de son moteur qui est en fin de vie et on est peut-être en train de le changer. Donc voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Mais apparemment, Daniel parlait d'un manque d'adhérence et qu'il n'a pas retrouvé depuis les essais libres où il avait été performant pourtant. Et il n'arrivait pas à mettre ses gommes en température. Donc pas mal de questions chez Red Bull en ce qui concerne la deuxième voiture de Ricardo.
Oui, et puis on l'avait vu brillant en qualification il y a peu, devançant même Verstappen, ce qui était assez rare. Puis on sait qu'il y a un petit flou au niveau du contrat de Daniel Ricciardo, qui est normalement sous contrat encore toute l'année 2018, mais on a entendu des rumeurs du côté du docteur Helmut en disant il est sur le marché. Alors on sait pas trop où on en est. Et peut-être qu'il est un petit peu perturbé par tout ça aussi, Ricciardo.
Non, je pense honnêtement que Daniel n'est pas perturbé par ce genre de choses. C'est un grand professionnel. Et puis on n'oublie pas pendant la nuit de piloter. C'est-à-dire que il y a peu, il l'est encore. Et là, l'écart est trop gros avec Max Verstappen pour qu'il n'y ait pas un souci sur sa monoplace.
Oui, c'est presque une seconde. J'ai été en train. 1:16.574, c'est un gouffre. Ouais. C'est le temps de Verstappen, deuxième temps qui a été la pole, donc on l'a dit pendant quelques minutes. Et Daniel Ricciardo, septième temps, 1:17.447. Là, il y a un souci. C'est clair qu'il y a 9 dixièmes. On va l'écouter justement au micro de Louis Hamar, Daniel Ricciardo, le pilote australien de l'équipe Red Bull, pour tenter d'expliquer ce qui n'a pas fonctionné en qualif chez lui.
Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout pourquoi la qualif s'est passée comme ça. Je suis très frustré puisque ça a été la même chose à chaque run. En Q3, on a essayé de faire un tour de chauffe supplémentaire pour aller chercher un peu plus de grip, mais ça n'a rien changé. Je glissais et il n'y avait rien à faire. Et c'est très surprenant parce qu'on n'a rien changé sur la voiture après les essais libres. Donc je n'ai pas vraiment de réponse pour l'instant.
Moi, je vais déjà vous dire une chose, c'est un scoop, c'est qu'il va la trouver la solution pour la course, parce que tu le sais, il est solide, hein, Adrien. C'est vrai que Daniel Ricciardo, parfois, pas en difficulté, mais on va dire moins étincelant peut-être que son équipier, moins rapide intrinsèquement sur un tour, mais en course, vraiment, il n'a pas son pareil. Il est toujours là où il faut et quand il faut.
Il est très étonnant, il est très très constant en course. Bon là, s'il retrouve pas la performance de sa voiture d'habitude quand il se faisait devancer par Max Verstappen, c'était de quelques millièmes, centièmes, au maximum un ou deux dixièmes en qualif. Mais là, Absolument. Là c'est un peu trop, donc il va vraiment falloir trouver la solution chez Red Bull. Si on lui change le moteur, ça serait une course d'attaque et il n'aura rien à perdre, il partira du fond de la grille probablement. Par contre, s'il change pas le moteur, il va être là à essayer d'attaquer dès le début et on lui fait confiance.
Et on espère qu'on changera pas ce moteur et qu'il prendra pas des pénalités comme d'autres. On va en parler un petit peu plus tard. Alors cette grille, on vous l'a dit, Vettel, Verstappen, c'est la première ligne, une Ferrari, une Red Bull, Renault. Deuxième ligne, ce sont les deux Mercedes d'Hamilton et Bottas. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux hommes. 1:16.934 pour Hamilton. Une 16-958 pour Bottas, donc là, Valtteri, il a trouvé de la performance. Derrière, sur la troisième ligne, il y a un certain Kimi Räikkönen, champion du monde avec Ferrari quand même en 2007. Et puis Esteban Ocon, c'est évidemment là que je voulais en arriver. Louis l'a rencontré et il va nous parler de ce surcroît de performance. Et vous allez voir, c'est un peu la même réponse que Ricciardo, mais à l'envers. Lui, il a de la performance. Vous allez voir ce qu'il répond à Louis.
Je sais pas d'où ça vient, ça, mais non, c'était vraiment, vraiment top. La voiture était pas super bien, pas facile à rouler hier. On a fait du gros gros travail cette nuit. Les ingés pendant toute la nuit ils ont bossé et à l'usine aussi à Silverstone. Donc voilà, un grand bravo à eux parce que la voiture était beaucoup mieux aujourd'hui. Et puis voilà, moi je me développais dans la séance, je continuais à m'améliorer et puis à la fin j'ai sorti le tour. Mais je fais une petite erreur dans le 12 à l'entrée du stadium. Donc peut-être que j'aurais pu titiller Räikkönen, ça aurait été sympa.
On a l'impression, Adrien, qu'il est sur un petit nuage un petit peu en ce moment. Esteban Ocon, là, on touche du bois pour lui parce que tant en qualif mais qu'en course, il est solide et il ne commet pas d'erreur. C'est ça qui est étonnant.
Mais c'est vrai, autant depuis le début de la saison, en tout cas pendant la première moitié de la saison, il était un peu en deçà au niveau de la performance pure par rapport à Sergio Pérez, et c'est la seule chose qu'on pouvait lui reprocher. Mais il a fait les choses dans l'ordre. Au fur et à mesure, il s'est amélioré. Et là, ça fait 4 grands prix qu'il est devant Sergio Pérez en qualif. Donc, il a inversé la tendance. Il est passé par pas mal de soucis avec son coéquipier d'ailleurs. Ils sont apparemment rabibochés.
Ils se sont expliqués entre eux.
Ils se sont expliqués. Ils s'entendent a priori bien de nouveau. nouveau et je pense que c'est sincère. Maintenant, il est dans une spirale très très positive, sixième sur la grille alors que Sergio Pérez n'est que entre guillemets dixième. Voilà, trois dixièmes, sept de mieux que son coéquipier pardon à domicile.
Et ça c'est ça, fait, chez lui, ça devant son public, ouais. Ça fait mal. On va l'écouter justement, Esteban Ocon, sur les progrès qu'il a enregistrés, notamment pendant les qualifs, et les raisons qu'il a données à Louis Hamar.
Je pense que c'est exactement la même chose que je fais, sauf que plus ou moins je le fais mieux, quoi. Je fais toujours le même travail, je vais toujours après les courses à l'usine, faire du simulateur, des débriefs, etc. Mais on est rentré dans un super bon rythme avec mes ingés. Du coup, voilà, on travaille super bien, je trouve, là, surtout en ce moment. Je continue de penser toute la journée depuis que je suis au circuit, dès que j'arrive au circuit. Je continue de penser sur les petits trucs à améliorer, quoi. Ça peut être des trucs tout bêtes, genre une petite mousse au coude, mais ça peut aller aussi jusqu'au setup, etc. Je continue tout le temps de penser aux détails et à la fin je me suis rendu compte que tous ces détails là bah ça fait la performance quoi et je me sens beaucoup mieux avec la voiture sur un tour qualif ou même en course.
Faut pas se méprendre à Adrien, la petite mousse c'est pas au bar hein. Là c'est vraiment pour s'installer confortablement dans la voiture. C'est vrai, toi qui es pilote, bien sûr que tous ces petits détails comptent et il faut à un moment que le pilote soit vraiment en symbiose au sein de sa machine.
Mais c'est tellement serré, la compétition est tellement dure que c'est sûr que le moindre petit détail fait la différence et c'est quand on les additionne les uns aux autres, quand on ne laisse rien au hasard que ça paye. Voilà, il faut en plus de ça de la réussite en sport automobile. C'est pour ça que c'est important de se préoccuper du moindre détail.
Alors, on vient d'entendre Esteban Ocon, sixième sur la grille de départ, un excellent résultat déjà pour ses qualifs, une de ses meilleures qualifs. On peut le dire, et on sait qu'il mène des débuts de course brillants également, il part bien en général Esteban. Il y aura juste derrière, il y aura Daniel Ricciardo dont on vous a parlé, qu'on a écouté tout à l'heure, et puis les Renault de Hülkenberg et Sainz dans cet ordre, mais extrêmement serré entre les deux hommes, puisque là aussi il y a 3 dixièmes environ. Alors on va arriver à Sergio Pérez que tu évoquais, puisque c'est Chico, c'est le local de l'étape, c'est lui le pilote mexicain. On va l'écouter justement sur ce qu'il pense de l'ambiance de ce Grand Prix du Mexique au micro de Louis Hamar.
At the end of the day, this is just a sport, you know.
Au bout du compte, ça n'est que du sport. Les fans sont contents d'accueillir Esteban ici, comme ils sont contents de voir tous les autres pilotes. Je pense que les Mexicains sont passionnés et ils veulent juste nous encourager tous pour nous rendre heureux et fiers d'être ici.
And to make them feel proud to be here.
Alors là aussi, question classique, mais je crois que je connais la réponse en partie. Adrien, rouler à domicile, rouler devant son public, c'est quand même un petit plus. Et là, malgré ce plus, malgré ce boost supplémentaire, pour ça qu'il doit être un peu, il est fier, le Chico Pérez. Là, il doit être un peu, pas humilié, mais enfin, ça va peut-être lui donner aussi la niaque en course.
Hein. Ça peut être un petit plus, mais ça peut parfois être vécu aussi comme une certaine pression, un poids sur les épaules. Donc, je pense que ça dépend des pilotes. Il y en a certains qui sont revigorés, qui sont encore plus forts chez eux. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est Esteban qui prend le dessus et c'est peut-être tout simplement ce tracé qui lui convient mieux hein. C'est un circuit un peu atypique où il y a pas beaucoup d'adhérence et où on a vu certains pilotes un peu surconduire. On sait que Sergio Pérez est un attaquant, peut-être qu'Esteban est un peu plus propre, un peu plus coulé sur ce circuit et que ça fonctionne mieux.
On va voir ça. En tout cas, le début de course va être absolument passionnant, ça c'est clair. C'est à 20h, on vous le rappelle, et on sera évidemment en direct sur RMC. Je continue avec la grille très rapidement parce que comme on a beaucoup de gros et de beaux sujets à aborder dans ce Motors, on va parler donc de moto dans un instant avec le Grand Prix de Malaisie, l'avant-dernier Grand Prix de la saison qui a été passionnant. Benoît Boutron est là pour nous en parler. Donc la grille, derrière la cinquième ligne composée de Carlos Sainz et Sergio Pérez, on retrouve Massa et Stroll sur la sixième, les deux hommes de chez Williams, et puis Hartley qui est toujours là bien sûr pour Toro Rosso, en compagnie non pas d'Alonso, frappé de 20 places de pénalité, non pas de Van Dorn, frappé de 35 places de pénalité, mais d'Ericsson. On trouve ensuite Verlaine, Magnussen, Grosjean qui a eu beaucoup de problèmes aux essais. Pierre Gasly en a eu énormément aussi, il n'a fait que 10 tours sur un tracé qu'il ne connaît pas. Et on devrait trouver en dernière ligne les deux McLaren frappés de pénalité. Alors je vous signale aussi que Gasly prend 15 places. C'est pas de sa faute, mais on l'a changé aussi des éléments. Voilà, pour cette présentation du Grand Prix de F1, on y reviendra, je vous rassure, dans la journée, hein, dans l'après-midi sur l'antenne de RMC. Adri, tu restes avec moi. On va parler de moto dans un instant avec Benoît Boutron et après de WRC parce que c'est d'un titre de champion du monde dont il est question. Vous êtes bien sur RMC dans Motors.
RMC Motors. RMC Motors. Jean Lecroix.
Bon, voulez une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il nous reste plus de 30 minutes dans Motor. Donc on va vous parler de deux championnats du monde qui sont très chauds actuellement. Et puis la mauvaise, c'est qu'on a déjà passé la Formule 1, mais qu'Adrien reste avec nous quand même, parce que tout l'intéresse. Alors, je vous avais promis qu'on allait parler de ce Grand Prix Moto, l'avant-dernier de la saison, qui s'est déroulé en Malaisie. C'était ce matin très tôt et Benoît Boutron s'était réveillé comme nous tous. Salut Benoît.
Évidemment, salut Jean-Luc, salut Adrien, salut. Salut à tous. Fantastique, hein. On s'est régalé,
mais avant de se régaler complètement, on va aller voir Jérémy Desoblin, parce qu'il y a aussi du rugby au programme de cette journée, Castres-Agen, dans le top 14. Salut Jérémy.
Salut Jean-Luc, salut à tous. 41 minutes à Pierre Favre au Castres Olympique, et pour l'instant, le CO qui mène au score face à Agen, 14-9, 5 petits points d'avance, 2-0, des essais signés Armand Bail et Julien Dumora, 3 pénalités côté Agenais, signé Jack McIntyre du côté Castré. On va aller chercher le bonus offensif. 41 minutes, 14 pour Castres, 9 pour le SUA.
Merci beaucoup Jérémy, on te retrouve tout à l'heure naturellement, mais tout de suite, c'était, il n'y en a pas sur les motos de course, mais c'est quand même dans le rétro dans Motors.
RMC Motors dans le rétro.
Eh ben non, il n'y en a pas sur les motos de course, et heureusement.
On regarde jamais derrière.
Non, on regarde que devant, d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Alors, on va commencer par, j'ose dire, les catégories inférieures. Ce n'est pas du tout péjoratif, Benoît, mais bon, il y a du Moto 3, il y a du Moto 2, oui. Et ça tombe bien, il y a également un pilote français dans chacune des catégories.
Exactement.
On va commencer par le Moto 3.
Eh ben, le Moto 3, sans surprise, le meilleur pilote de l'année a encore gagné, Joan Mir, l'Espagnol, déjà titré, assuré du titre de champion du monde la semaine dernière.
Ça, c'était fait.
Il a gagné donc en Malaisie. Ça fait 10 victoires quand même cette saison, hein. C'est quand même une saison fantastique pour lui. Joan Mir donc qui s'impose dans la plus petite des catégories. Il devance son compatriote Jorge Martin et l'Italien Enea Bastianini. Alors j'ai pas sous les yeux le classement du Français
Jules Danilo.
Je vais te le retrouver d'ici quelques secondes,
on va,
mais
c'est
alors, le seul qui a pas vraiment brillé ce week-end dans les pilotes français. Il y en a un autre, c'est Loris Baz en MotoGP. On va en reparler, mais
il a brillé un moment, mais il a pas terminé.
Deux autres ont été bons, et ça on va en parler.
On va en parler. Alors on va parler du Moto 2 maintenant. Le Moto 2, bah c'est juste la catégorie inférieure, et d'ailleurs là on a décerné un titre, et je sais même que celui-là il va se retrouver dans MotoGP l'an prochain.
Exactement, c'est l'Italien Franco Morbidelli qui est donc sacré champion du monde de Moto 2. Il n'a pas gagné ce matin, il s'est classé troisième de la course, une course remportée par le Portugais Miguel Oliveira. Deuxième place pour le Sud-Africain Brad Binder. Il n'y avait pas vraiment de suspense ce week-end, messieurs, vous avez vu ça, puisqu'il y avait une lutte pour le titre entre Morbidelli et Thomas Lüthi, le Suisse qui n'a pas pris part à ce Grand Prix. Il était blessé malheureusement pour lui.
Oui.
Donc Morbidelli était assuré du titre, mais il a quand même décroché un podium. Et juste oui, pour être complet sur le Moto 3, il a abandonné Jules Danilo. Donc il n'a pas terminé la course de nos Moto 3, malheureusement pour lui. En revanche, Fabio Quartararo, c'est l'une de ses plus belles perfs cette saison. Il termine septième de Grand Prix Moto 2. Il avait fait des qualifs réussi, il était parti troisième sur la grille, il termine septième. Ça va lui faire du bien au moral, notamment puisqu'il a eu une année assez éprouvante.
Très difficile, absolument. Et puis on rappelle que les conditions météo étaient difficiles également sur
très
ce
humide.
Tracé. Très humide.
Il y a eu de la pluie.
C'est souvent le cas en Malaisie à cette saison, évidemment.
Exactement.
C'est la mousson, donc il tombe beaucoup d'eau. Alors on en arrive au morceau de choix, au morceau de bravoure.
Et là on s'est régalé.
Ah bah là on s'est régalé.
Plus
et
le
régalé.
Suspense s'est relancé.
Attends.
On
ne
connaît
bah,
pas le champion du monde en tout cas, c'est ce qu'il faut dire.
Alors celui qui aurait pu être, on va commencer par là, tiens, si tu veux bien, qui aurait pu être titré. Il nous a fait un départ canon hein, depuis
Marquez,
la deuxième ligne.
Incroyable, voilà. Il est parti septième et au premier virage, il était premier. Il a doublé tout le monde, c'était comme dans les jeux vidéo, quand vous tentez de remonter...
Sauf que c'était à plus de 300 sur le mouillé,
incroyable.
Sur deux roues.
Et du coup, il a fait
carbone,
tout droit,
froid.
Tout droit dans le premier virage, c'était assez hallucinant de la part de Marc Marquez, qui joue effectivement le titre au niveau du championnat du monde. Il a pris tous les risques et finalement, il a réussi à se replacer dès le début de la course. Mais la grande perf de la matinée, au-delà de Johann Zarco, dont on va parler d'ici quelques secondes, c'est le double Ducati.
Et oui, les deux
Ducati ont très bien marché en Malaisie, et c'est l'Italien Andrea Dovizioso qui peut encore décrocher le titre de champion du monde, qui s'est imposé devant Jorge Lorenzo. On pourra en reparler, puisque pendant un bon moment dans la course, c'est Lorenzo qui était devant Dovizioso. Tout le monde s'est demandé, est-ce qu'il va le laisser passer?
Est-ce qu'il va y avoir des ordres?
Lorenzo n'a pas encore gagné sur Ducati, est-ce qu'il va accepter de laisser passer son coéquipier? Et finalement, il n'a pas eu à se poser la question, puisqu'il a fait une faute. Tu as vu vers la fin du Grand Prix.
Il a failli tomber, mais il a bloqué sa roue avant.
Exactement, et du coup, Dovizioso en a profité pour passer. Pas d'histoire comme ça, il n'y a pas eu d'arrangement entre les deux, il n'y a pas d'enquête de la part des responsables du MotoGP, et bien ça nous relance un petit peu le suspense, même s'il y a encore 21 points d'écart entre Dovizioso et Marquez avant la dernière course.
L'échéance est repoussée, hein. Pourtant Marquez il était fort, il s'en était pris, Adrien tu les as peut-être vus aussi, il s'en était pris aux essais, enfin il y en a une qui l'a rattrapé, ahurissant, il glisse dans un virage avec le coude, avec le genou et le coude.
Là, c'est un équilibriste. Et quand quand vous disiez, il regarde pas derrière, moi, il y a une image que j'ai retenue dans le Grand Prix tout à l'heure, c'est Dovizioso quand il est passé en tête à la sortie de cette épingle. Les tours, il jetait un coup d'œil sur la gauche. Donc les autres pilotes qui arrivaient derrière lui, je pense que c'était pour vérifier où était Marquez et s'il était toujours en course pour le titre.
Et qu'est-ce que c'est bien la moto, il y a pas de radio. Hein.
Ouais.
C'est ça qui est formidable. Il y a que le panneau.
Il y a pas de radio. Il y a pas d'arrêt au stand. Il y a pas de tout ça, messieurs. C'est la vraie course.
C'est comme le kart.
Le kart. Une fois qu'on est parti, tous ceux qui sont devant, on les dépasse.
Mais c'est vrai. Format 50 minutes la course. Voilà, c'est très rapide. Il y a du spectacle du début à la fin. Pas de temps mort. C'est le MotoGP, c'est fantastique.
Et d'ailleurs, en Malaisie, vous le savez, la Formule 1 n'y va plus. C'était le dernier Grand Prix cette saison parce que malheureusement, le public s'en est désintéressé et vient en masse pour la moto. Il y avait pratiquement 100 000 spectateurs, c'est-à-dire pratiquement autant que au Grand Prix de France. Et Claude, si tu nous écoutes, je sais qu'il nous écoute, Claude Michi nous écoute toutes les semaines. Claude, là, on a fait monter la pression. Alors, on a parlé de Marquez, qui n'est pas encore champion, qui va essayer de l'être chez lui, évidemment, à domicile.
À Valence,
pour le dernier Grand Prix. On a parlé des Ducati, qui ont fait un doublé, et Dovizioso, qui a fait le boulot. Ouais. On va parler de Zarco, quand même, parce que il a failli décrocher la pole. Hein. Benoît.
C'est horrible, en fait, de regarder les Grands Prix avec Johann Zarco, puisque dès le premier virage, il a pris la tête. On s'est dit, allez, c'est bon, il va pouvoir le faire, pourquoi pas. Il était en tête pendant les 7 premiers tours. Il avait une petite marge sur les Ducati, mais on a vite senti que les deux pilotes qu'il suivait étaient beaucoup plus rapides et qu'il allait forcément se faire doubler, malheureusement, Johann Zarco. Mais là où il a eu de l'intelligence, le pilote français, c'est qu'il termine meilleur pilote Yamaha. Pourquoi ? Parce qu'il a su gérer ses pneus et il a su effectivement accepter de se faire doubler par les deux Ducati, mais conserver un bon rythme et atteindre ce podium, le deuxième podium de sa carrière. Première saison en MotoGP, deuxième podium. Il aligne en plus les bonnes perfs en qualif depuis le début de la tournée en Asie. C'est vraiment une saison fantastique pour Johann Zarco.
C'est absolument génial. Alors on se l'est commenté avec Adrien, ses dépassements en disant vraiment c'est une bête. Et ce qui est impressionnant aussi avec Johann, je touche du bois là aussi qu'il reste encore un Grand Prix, mais c'est comme Esteban, il ne commet pas d'erreur. Ouais. C'est tellement facile de se faire piéger.
Pas d'erreur et en plus d'une intelligence. Je ne sais pas si vous avez vu le départ, mais ils se sont tous mis à freiner très tard. Ils étaient tous de front et Johann a été le seul à bien lire en fait la piste et les conditions. Il a freiné un peu plus tôt. Il a décroisé tout le monde à l'intérieur. C'était clair comme de l'eau de roche, mais pour nous de l'extérieur.
Ouais.
Quoi.
C'est facile à voir.
À commenter. Par contre, pour lui, c'est compliqué. Il est toujours très intelligent dans ses manœuvres.
Très lucide. Et puis, il l'a compris. Il l'a dit après, d'ailleurs, Benoît, en interview. Il a dit, oui, j'ai senti. Alors, il avait choisi un pneu arrière le plus tendre.
Un vrai choix de pneumatique, en plus. Il a vraiment pris des risques, Johann Zarco. Et pour ceux qui connaissent un petit peu moins les sports mécaniques et le MotoGP et qui nous écoutent tout de même dans Motors, rappelons qu'effectivement, il est pilote Yamaha, mais ce n'est pas une moto d'usine. Donc, ce ne sont pas les motos chez Yamaha. Une écurie satellite. Il termine troisième.
Ouais.
Valentino Rossi, la star du MotoGP, qui lui aussi est pilote Yamaha, termine 7e. Et Maverick Viñales, autre pilote
prétendant au titre pendant une bonne partie de la saison,
qui avait gagné notamment les deux premières courses de la saison. On pensait que ça allait être le principal concurrent de Marc Marquez. Lui termine 9e. C'est dire la performance de Johann Zarco, vraiment, qui a réussi une nouvelle fois à hisser sa Yamaha sur.
Et qu'est-ce qu'on attend pour lui donner une moto d'usine?
Je me demande, à mon avis, alors ça peut être triste.
C'est très politique.
Pour mon copain Hervé Poncharal, qui est le patron de l'équipe Tech 3, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on lui prendrait entre guillemets son pilote pour le mettre peut-être. Alors est-ce qu'on attend peut-être la retraite de Rossi si elle arrive? Non, il a encore un contrat pour la saison 2018, on vous rassure.
Le problème c'est que effectivement le directeur d'écurie de Yamaha a indiqué qu'il voulait voir Rossi peut-être même jusqu'à fin 2019. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Johann Zarco, puisque rappelons que Maverick Viñales vient d'arriver chez Yamaha, donc il a signé 2 ans. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, l'an prochain, on a du mal à l'imaginer avec une moto d'usine chez Yamaha.
Ouais. Ah bon. Pour le moment, il est bien chez Tech 3. Il est capable de faire des résultats extraordinaires, parce que là, 6e pour sa saison, comme tu l'as dit, c'est le rookie de l'année, c'est déjà formidable. On va continuer avec le classement, si tu veux bien, Benoît, et parler de Loris Baz, qui est à son avant-dernier Grand Prix.
Exactement. C'était... Et malheureusement, Loris Baz, qui est toujours très performant sous la pluie, il n'a pas terminé ce Grand Prix, puisque...
Mais il était 7e.
Il était 7e et dès qu'il pleut, il est très bon. Loris Baz, avec sa grande taille, il arrive à gérer sa moto à la perfection. C'est un pilote Ducati aussi, donc la Ducati a bien marché ce week-end. Il n'a pas pu terminer effectivement ce Grand Prix. Donc Dovizioso s'impose devant Jorge Lorenzo, les deux Ducati. Zarco 3e, Marquez 4e devant son coéquipier chez Honda, Dani Pedrosa. Autre Ducati bien classé, c'est Danilo Petrucci qui termine 6e devant Valentino Rossi.
et juste un point au niveau du classement. Désormais, donc 21 points d'écart, elles ne sont plus que deux à pouvoir encore être championne du monde. Marc Marquez est en tête, Dovizioso deuxième. Le calcul est assez simple finalement.
Oui, à Valence, là, c'est simple.
Dans 15 jours,
cas de figure.
Il faut gagner pour Dovizioso et espérer que Marquez finisse au-delà de la 13e place. Ça paraît quand même compliqué, même si Marquez est capable de se foutre en l'air dès le premier virage. On ne sait jamais avec Marquez.
Oui, mais il est capable de remonter sur la moto et terminer 13e. Donc
il est quand même très bien parti pour être champion du monde.
Ouais, puis ça va être un beau baston devant le public espagnol qui
évidemment
est en délire. Merci beaucoup, Benoît.
Merci,
c'était
messieurs.
Un
merci
plaisir.
Bien.
Tu restes avec nous.
Évidemment.
On va parler de WRC. Adrie, reste avec nous aussi. Nous, on fait un saut du côté de Castres, à je même, avec Jérémy Desoblin que l'on retrouve. On en est où, Jérémy?
Et le Castres Olympique qui mène toujours au score de 5 points, toujours, mais le score a évolué 21 à 16 désormais pour les Castrés. Il y a eu deux essais depuis tout à l'heure. Anthony Jelonge pour les Castrés, la 44e, une mêlée parfaitement jouée. Petit côté, c'est Anthony Jelonge qui a été inscrit à l'essai, mais voilà, les Agenais ont réduit l'écart grâce à un essai. Denis Marchois à la 50e, et pour l'instant 3 essais à 1, pas de bonus offensif pour les Castrés. On en reste à 21 à 16, on joue depuis 51 minutes à Pierre Fabre.
Merci beaucoup Jérémy, on te retrouve tout à l'heure. Naturellement, vous restez avec nous parce qu'il y a encore la troisième partie de Motor. Ça va être Radio Paddock, mais c'est plutôt Radio Habitacle, parce que c'est le pilote et le copilote. On va retrouver notre envoyé spécial Camille Gelpi du côté du rallye du Pays de Galles et savoir si Ogier et Ingracia sont ou pas champions du monde. Vous restez avec nous.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Jean Lecroix.
Et voilà, nous abordons la troisième partie de cette émission Motors. On vous l'a dit, après la Formule 1, après le Grand Prix Moto en Malaisie, la Formule 1 c'est ce soir à 20h en direct sur RMC pour le Grand Prix du Mexique, et bien nous arrivons à cette épreuve du championnat du monde des rallyes, le WRC. C'est au Pays de Galles et ce sera notre radio paddock de l'émission.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much guys!
Radio paddock.
Ah, c'est peut-être cette phrase, on va peut-être l'entendre dans quelques minutes maintenant du côté du Pays de Galles, et ça pourrait concerner Sébastien Ogier et Julien Ingracia. Pour en parler, on retrouve l'envoyé spécial d'RMC sur le terrain, Camille Gelpi. Bonjour Camille.
Salut à tous.
Bon, bah dis donc, tu as envie des belles heures là, on peut dire que ça bastonne, on se bat à coups de seconde. Quand on regarde les écarts entre les pilotes, on a l'impression que c'est une course en circuit.
Ils se tiennent dans un mouchoir de poche, hein, 4 ou 5 pilotes qui se tiennent à une dizaine de secondes. Donc effectivement, le suspense jusqu'au bout et jusqu'au dernier kilomètre.
Et oui, alors bon, du côté de la victoire, on va évacuer tout de suite. A priori, c'est en tout cas, il a une avance d'une quarantaine de secondes au dernier pointage. Ce serait Elfyn Evans qui paraît intouchable dans cette épreuve qu'il connaît bien.
Et c'est d'ailleurs finalement une bonne nouvelle pour Sébastien Ogier, parce que ça veut dire qu'il y a moins d'écart de points, parce que Elfyn Evans marquerait alors 25 points, et du coup entre le deuxième et le troisième, donc potentiellement entre Neuville et lui, il n'y aurait plus que 3 points, ce qui est quand même intéressant pour le Français en vue du titre de champion du monde.
Voilà Camille, pour schématiser, donc on peut dire que a priori Sébastien Ogier ne remportera pas cette épreuve, mais il lui suffit de contrôler ses rivaux directs, tu viens de le dire, c'est-à-dire Thierry Neuville qui pilote pour Hyundai, et puis Ott Tanak qui est dans la même équipe que lui, on va en parler d'ailleurs, cette équipe M Sport, c'est bien ça. Hein.
Effectivement, en fait, tout simplement, il faut qu'il perde moins de 8 points sur Thierry Neuville ce week-end et moins de 7 points sur Ott Tanak. Donc finalement, s'il contrôle les choses entre le classement général et les points de la Power Stage, normalement tout va bien pour lui.
Et la Power Stage est en train de se dérouler, donc on suit ça de très très près évidemment. Benoît Boutron est resté, tu vois, il est sur le coup lui aussi. On est tous sur le coup avec Adrie là. Donc tu vas nous raconter un petit peu l'ambiance de ce rallye qui est particulier. Alors d'habitude il tombe des trombes d'eau, là je crois que tu as eu de la chance Camille, cette fois-ci il n'est pas tombé des trombes d'eau.
Non, il y a eu quand même un petit peu de pluie, ce qui a quand même rendu le terrain humide et quand même boueux et quand même difficile. On a vu certaines photos où je suis allée sur certaines spéciales où on voyait quand même les voitures remplies de poussière, ce qu'on appelle le mud en anglais. Donc quand même des conditions difficiles que Sébastien Ogier a eu du mal à maîtriser. Et d'ailleurs, hier soir, il nous confiait que finalement c'était le pire rallye pour lui, pour contrôler et pour essayer d'être champion du monde, parce qu'on peut pas se permettre d'attendre. Il faut tout le temps aller au maximum et prendre des risques dans des conditions difficiles. Il y a eu aussi beaucoup de brouillard, notamment hier, mais le brouillard qui finalement lui a peut-être réussi, parce que Thierry Neuville, avec ses petites lunettes oranges, est peut-être un petit peu myope quand même, et les brouillards, il n'aime pas trop. Et donc, il a perdu pas mal de temps hier soir, ce qui a permis à Sébastien Ogier, après les deux spéciales de la nuit d'hier, d'arriver avec un peu plus de sourire, parce qu'on sentait qu'il était quand même encore dans le contrôle.
Alors Camille, tu as suivi de très près, évidemment, Sébastien Ogier. On va l'écouter à ton micro sur ce qu'il te disait il y a quelques heures à peine, vraiment au départ de cette étape. Quelle était sa mentalité? On sait qu'il pourrait décrocher ici le cinquième titre titre de sa carrière de pilote de rallye. On l'écoute à ton micro.
Les écarts sont faibles, donc il faut continuer à se battre parce que rien n'est fait pour le moment et c'est sûr qu'il faut rien lâcher. Si on va essayer des petites choses, mais c'est sûr qu'on peut pas révolutionner beaucoup de choses pour le moment. Faut se battre, hein. Rien n'arrive facilement dans la vie, donc c'est normal. Hein. Pour l'instant, les écarts sont faibles, donc comme je disais, faut rien lâcher.
Alors, tendu, mais confiant, évidemment, hein, Camille. C'est ainsi que tu l'as senti. Puis, de toute façon, il est très bien épaulé, et j'aime bien le rappeler toujours, par Julien Ingracia, parce que le rallye, c'est un sport d'équipe. Hein.
Ouais. Et après, c'est vrai que là, ce sonore, il était fait avant les deux spéciales de la nuit, et donc, ça s'était pas forcément non plus très bien passé toute la journée pour Sébastien Ogier, qui avait perdu un peu de temps, et qu'il explique, hein, il savait pas vraiment d'où ça venait, il avait peur qu'il y ait des problèmes sur la voiture, donc on l'avait senti vraiment très tendu, et Jean-Luc, tu le connais, quand il est comme ça, il est quand même assez peu loquace.
Oui.
Voilà, il a pas trop envie de parler. Et finalement, hier, quand les deux spéciales de la nuit sont mieux déroulées, il a pu là plus se confier auprès de nous. Et on sentait effectivement qu'il avait retrouvé un peu de confiance. Mais ce qu'on sent quand même, c'est que ce rallye a été extrêmement difficile à gérer émotionnellement pour lui. Je pense qu'il va être épuisé, vidé à la fin de ce rallye. Et Julien Ingracia aussi. Il faut rappeler quand même que sur la journée de samedi, ils ont passé 17 heures en tout dans la voiture, ouais, avec 9 spéciales et des liaisons interminables. Et j'en parlais d'ailleurs avec le préparateur physique de Julien Ingracia également, que j'ai croisé, qui était en spécial hier. Quand ils arrivent après un rallye comme ça, ils sont vidés et pas question de faire de prépa physique, hein. Ils sont complètement épuisés et mènent plusieurs jours à se remettre d'une telle épreuve. Et là, mentalement en plus, on sent que ça a été difficile pour le duo français.
Ah oui, ils ont dû tout donner, comme Adrien vient de le faire. Chris Meek, là, c'est lui qui s'installe pour le moment en tête, mais attention, hein, il reste, si je ne m'abuse, il reste 6 pilotes maintenant, dont Tanak d'ailleurs, un des prétendants au titre qui va s'élancer. Donc Adrien, oui, quand on donne tout comme ça, nerveusement, physiquement, on est à zéro, c'est ce qu'expliquait Camille. Même un champion de cet acabit, évidemment.
Mais le rallye, c'est vraiment un sport mental. Le sport automobile en général est un sport mental, mais le rallye, c'est exacerbé parce que le niveau de concentration doit être au maximum pendant parfois de longues périodes, parfois 40 km de spécial sur un Monte Carlo, par exemple. C'est incroyable. On peut pas faire la moindre erreur et on est toujours au maximum. On n'est jamais en gestion, on est toujours en train d'écouter, de balayer du regard, que ça soit loin mais aussi près de la voiture devant, puisqu'il y a des changements d'adhérence tout le temps. Et puis en plus de ça, il faut écouter son copilote, donc c'est un sport très compliqué, ouais, physiquement et mentalement.
Et puis il n'y a pas les run-off, hein, là, c'est-à-dire que là, voilà, vaut mieux rester sur la
piste.
C'est assez grisant. Camille a rencontré Yves Maton, le patron de l'équipe Citroën, le patron de Chris Meek, donc qui vient d'en découdre là dans le Power Sage. On va l'écouter sur la ténacité dont fait preuve justement Ogier.
Des grands champions comme ça, ils ont quand même des traits de caractère qui se ressemblent. Entre autres, leur soif de vaincre et de ne rien lâcher. Ça, c'est sûr que c'est un des traits importants de son caractère qui même à certains moments, au début de sa carrière dans le passé, ont peut-être pu un peu le desservir tellement il voulait y arriver. Bon, avec la maturité maintenant qu'il a, il a réussi à outrepasser ça, mais il garde le point positif de ce trait de caractère, c'est qu'il a qu'un seul objectif, c'est être champion du monde.
Et oui, c'est comme ça qu'il faut travailler, effectivement. C'est comme ça que, Adrien, on en parlait à propos de Lewis Hamilton. Lui aussi, bon, il veut gagner avec panache. On l'a entendu, on l'a écouté au micro de Louis Amar tout à l'heure. Là, c'est effectivement, et Yves Maton le sait, il en a managé, là aussi, des champions du monde.
Oui, et je pense qu'en rallye, c'est encore une autre histoire. C'est encore plus compliqué comme ça quand on doit manager son écart par rapport à ses rivaux, parce qu'il y a plein de paramètres extérieurs, des changements d'adhérence qui peuvent subvenir. Et puis surtout, on doit rester concentré, on doit continuer à attaquer, parce que quand on rentre dans un faux rythme, je pense que c'est encore plus facile de faire des erreurs.
C'est clair. Alors Camille, tu as rencontré également un autre multiple champion du monde qui est présent, c'est Sébastien Loeb, ouais, qui t'a donné un avis également. Bah lui, il peut en parler avec ses 9 titres de champion du monde.
Effectivement.
On va l'écouter justement, Sébastien Loeb s'exprimer sur Sébastien Ogier. On sait que les deux hommes ont cohabité chez Citroën il y a quelques années. Ça avait même entraîné le départ un peu en cata de Seb Ogier. Vous allez voir, c'est intéressant ce que dit Loeb sur Ogier.
Le mérite aujourd'hui, celui qui gère le mieux son championnat, qui a été capable de changer d'équipe, qui est capable d'accepter de pas forcément toujours pouvoir gagner et de marquer des points en pensant à son championnat. Et puis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il l'a très bien fait, donc quelque part il le mérite largement.
Alors, un autre qui le mérite, c'est Malcolm Wilson, hein, qui a fondé cette équipe M-Sport, qui engage les forts dans le championnat du monde, Camille, parce que en fait c'est une petite équipe, il faut le rappeler, c'est pas une équipe d'usine.
Effectivement, c'est une équipe privée hein, qui est adossée un petit peu à Ford, qui les aide légèrement sur la technique, mais c'est quand même Malcolm Wilson qui finance hein, cette équipe. Donc, il a dû faire des sacrifices pour s'offrir Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Mais des sacrifices finalement qui ont été payants, je pense, pour cet homme d'affaires, parce que finalement, les bénéfices sont énormes et la saison de M-Sport est vraiment exemplaire. On a vu Sylla, Elfyn Evans remporte le rallye du Pays de Galles, que les trois pilotes auront remporté au moins un rallye dans la saison. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Ils vont probablement remporter le titre de constructeur, ce qui n'a jamais été fait par une équipe privée. Et on sent vraiment en fait que l'arrivée de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia a vraiment poussé l'équipe vers le haut. Et tout ce que disent, j'en parlais notamment avec le jeune pilote Eric Camilli, qui disait qu'il sentait qu'il y avait une émulation particulière, que tout le monde a envie de bien faire pour aller dans le sillage finalement des quadruples champions du monde. Et puis ces quadruples champions du monde ont vraiment apporté des détails, du professionnalisme, et ont aidé dans chaque petit détail l'équipe à progresser.
Et oui, l'équipe a énormément progressé. Et Ott Tanak, là, vient de signer le meilleur temps de la Power Stage. Tu vois, il a devancé Chris Meek à l'instant et Eden Paddon qui est passé précédemment. C'est la joie du côté du stand de M-Sport. On a vu Malcolm Wilson parce qu'ils sont champions du monde. Ça y est, c'est fait. Hein,
ça y est, c'est fait. Effectivement, M-Sport décroche le titre constructeur. Alors, rappelons que Sébastien Ogier est toujours bien placé pour décrocher un cinquième titre de champion du monde. Il va s'élancer après le passage de deux autres pilotes de rallye. Et ce qu'on peut rappeler également, c'est que Ogier, avant le début de cette Power Stage, avait évidemment 7 secondes d'avance sur Tanak, qui vient de réaliser le meilleur temps. Donc tout est encore possible. Il faudra se méfier de Neuville, qui part juste avant Sébastien Ogier.
C'est son dernier adversaire.
Voilà, le seul objectif en fait pour Ogier, c'est de contrôler Neuville et Ott Tanak.
Et Ott Tanak qui vient de signer donc le meilleur temps. Maintenant, mais Camille,
7 secondes sur 6 km 48, normalement, ça doit pouvoir être maîtrisé.
Ça fait une seconde.
Ogier ne fait pas de bêtises.
Une seconde au kill, ça fait beaucoup en rallye.
Voilà. Normalement, ça devrait être maîtrisé.
Bon, on va écouter, parce que tu as beaucoup travaillé, Camille, et Sébastien Loeb, tu lui as parlé de M-Sport aussi, puisque lui, il les a affrontés avec, quand il était chez Citroën et qu'il a aligné ses 9 titres de champion du monde. Eh bien, il a affronté l'équipe de Malcolm Wilson. Écoutez ce qu'il en pense, Sébastien Loeb.
C'est sympa pour Malcolm, parce qu'il se bat quand même pour faire marcher son équipe depuis des années. Il est passé par des moments où c'était sûrement pas facile, et puis il s'est toujours battu, il est passionné, et je trouve que c'est une belle récompense pour lui. En tout cas, après il sait faire des voitures hein, c'est pas non plus une équipe privée qui débute hein, il a toujours été dans la bagarre, ils ont toujours eu des bonnes voitures et tout, mais bon là voilà, c'est effectivement une belle récompense pour eux en tout cas.
Ah, c'est une superbe récompense pour l'équipe M-Sport, l'équipe privée de Malcolm Wilson, et l'une des clés évidemment du transfert, on va en parler en finale du transfert ou pas hein, Camille, du transfert de Sébastien Ogier, c'est bien l'aide de Ford. On fait d'abord un tout petit saut si vous le voulez bien pour retrouver Jérémy Desoblin, parce que il y aurait un coup de tonnerre peut-être qui se préparait, Jérémy.
Exactement, 62 minutes ici à Pierre Fabre, et le Castres Olympique mené sur sa pelouse par le SUA 28-21. On va rappeler que le Castres menait 21-9, mais voilà, 3 essais consécutifs en 6 minutes pour les Agenais qui mènent désormais 28-21. 18 minutes encore à jouer dans cette partie.
Et oui, ça ce serait la surprise. Effectivement, on aura la réponse tout à l'heure certainement dans l'intégral sport avec Jean-Christophe Drouet bien sûr. On revient nous à ce rallye puisque le baston continue et c'est Latvala qui est en piste maintenant dans cette Power Stage. On aura le résultat dans un instant. Alors l'autre grosse question que tout le monde se pose évidemment, même si ça n'est pas le dernier rallye, Camille, c'est où va aller Sébastien Ogier et Julien Ingrassia la saison prochaine hein.
Effectivement, c'est assez ouvert parce que bon, on sait que Malcolm Wilson, lui, il aimerait forcément garder Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, mais sachant qu'ils ont déjà fait un sacrifice sur le salaire cette année, est-ce que Malcolm Wilson sera capable de hausser encore les enchères? Parce qu'avec un cinquième titre de champion du monde, on devient forcément plus cher parce qu'on prend de la valeur. On sait aussi que Citroën courtise ardemment le duo français, mais là encore des questions, pareil sur le salaire forcément, sur la place qu'ils vont lui laisser, et puis sur la voiture, parce que cette année Citroën ça a quand même été assez compliqué, faut bien dire. Donc là il y a eu des essais pour la nouvelle, l'UB semblait dire que c'était une voiture qui fonctionnait pas mal, mais là encore il y a des questions. Sébastien Ogier va vouloir des références, il va vouloir essayer cette voiture, savoir si ça lui convient finalement pour éventuellement aller chercher un autre type de champion du monde dans une autre écurie. Et là, effectivement, c'est là que c'est intéressant, c'est que pouvoir remporter un titre de champion du monde sur trois écuries différentes, là, même s'il n'a pas 9 titres comme Sébastien Loeb, deviendrait vraiment une performance exceptionnelle. Donc ça doit forcément lui trotter dans la tête, mais pour l'instant vraiment rien n'est fait, et il faut qu'il ait une offre quelque part qui l'intéresse. Et finalement les écuries sont aussi un peu toutes prises, hein. il y a des places, il y a peu de places finalement pour des pilotes, hein.
Et oui, on a recruté effectivement chez Hyundai, chez Toyota notamment. On parle de Toyota et Latvala vient de signer le meilleur temps de la Power Stage à l'instant, donc il va prendre des points pour le moment, c'est virtuel, hein. C'est lui qui prendrait les 5 points devant Ott Tänak justement, donc ça va plutôt dans le sens d'Ogier, puisque si on prive Tänak de points, c'est plutôt bon pour Ogier. On va écouter c'est l'autre interview de Yves Maton, c'est le patron de Citroën. Alors quand on parle de transfert, tu l'as posé la bonne question, Camille.
Sébastien connaît très bien l'équipe Citroën Racing, il connaît notre savoir-faire, il connaît quasi tous les membres de l'équipe puisqu'on est une équipe assez stable. Et puis ce serait certainement un défi pour lui s'il est champion du monde cette année avec Ford, de potentiellement être champion du monde avec trois constructeurs. Ce serait vraiment montrer qu'il est la pièce maîtresse entre guillemets du titre d'un constructeur.
Et voilà donc l'avis de Yves Maton, qui évidemment aimerait beaucoup, on le sait, recruter Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, surtout avec un cinquième titre de champion du monde. Bah la suite, bah écoutez, vous allez rester sur RMC parce que la suite ce sera avec Jean-Christophe Drouet pour parler de cet éventuel. Salut Jean-Christophe, avec un programme chargé, mais on peut dire qu'il y aura des sports mécaniques aussi.
Oui, il y aura des sports mécaniques, évidemment. On va continuer de suivre ce rallye de Grande-Bretagne. Sébastien Ogier va-t-il devenir champion du monde pour la cinquième fois d'affilée? La réponse, c'est dans l'intégral sport. Et puis, autre sport méca, la Formule 1. Vous serez avec nous pour suivre ce soir à partir de 20h le Grand Prix du Mexique. Lewis Hamilton va-t-il être sacré? Sinon, il y aura de la Ligue 1 avec un 15h ce match entre Lyon et Metz. Du top 14 à 16h50, La Rochelle, Toulouse. Et puis, ce match de tennis qui nous concerne, franco-français, la finale du tournoi de Vienne entre Joe Wilfried Tsonga et Lucas Pouille. Bref, un magnifique programme.
Mais on n'en doutait pas un instant.
Eh oui, allez, à tout de suite.
On va rester collé RMC, à tout de suite Jean-Christophe. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, vous aurez le résultat et le titre éventuel de Sébastien Ogier, Julien Ingrassia avec Jean-Christophe dans un instant. Restez avec nous. Salut à tous.